toute l'équipe de La Tête au Carré pendant 3 jours, donc sur les rives du fleuve Saint-Laurent au Québec, à l'occasion du nouveau congrès de l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir, qui donc s'installe cette année à Rimouski, dans la région du Bas-Saint-Laurent. Il s'agit de la plus grande rencontre scientifique du monde francophone, avec 3500 chercheurs qui sont présents ici pour participer donc à des rencontres avec le public. Et nous allons vous faire vivre quelques-uns des thèmes qui seront abordés pendant la semaine. Au menu de notre Tête au Carré cet après-midi, les enjeux du Grand Nord, un immense territoire québécois qui couvre plus des 2/3 de la superficie de la province, avec la question justement du territoire des Inuits qui subit de plein fouet les effets du réchauffement climatique. L'émission étant enregistrée en raison du décalage horaire, nous ne pourrons pas recevoir vos messages comme d'habitude, mais je salue le public de Rimouski qui est ici présent. Bonjour à tous, et qui pourra intervenir et poser des questions à nos invités. Et puis à la une de la science aujourd'hui, de l'astronomie, avec une nouvelle hypothèse au sujet de la formation des deux lunes de Mars. Et c'est également avec vous ici à Rimouski, Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu. C'est une vieille hypothèse qui refait surface pour cette une. Et si Phobos et Deimos étaient des débris, le résultat d'une énorme collision entre Mars et un astéroïde géant il y a des milliards d'années? Il faudrait aller sur place pour vérifier, mais pour l'instant on en parle avec nos invités pour la une dans un instant.
Et voilà donc pour le sommaire de cette Tête au Carré québécoise, réalisée par Violaine Ballet, qui a été préparée par Lucie Sarfati.
La Tête au Carré sur les rives du Saint-Laurent. Mathieu Vidard sur France Inter.
Le Grand Nord québécois, les Inuits et le réchauffement climatique. Voilà donc les premiers sujets dont on va discuter dans cette première Tête au Carré à Rimouski. Mais on saluera d'abord Louise Dandurand, la présidente de l'ACFAS, qui nous accueille ici pour cette nouvelle édition. Bonjour à vous.
Bonjour.
Le congrès chaque année monte un peu plus vers le nord de la province, j'ai l'impression.
Ah, le congrès se déplace. On essaie d'alterner entre des congrès en région et des congrès dans la métropole ou dans la capitale nationale, pour faire en sorte que toutes les régions du Québec puissent rencontrer les chercheurs, pour qu'on puisse aussi discuter d'enjeux qui sont les objets de préoccupation particulière des régions.
Voilà, donc après Montréal et Québec, où nous étions allés aussi les années passées, nous voici à Rimouski. Martin Simard, bonjour.
Oui, bonjour.
Est-ce qu'ici à Rimouski, nous sommes déjà dans le Grand Nord québécois dont on va parler avec vous tout à l'heure?
Non, pas tout à fait. On est plutôt... on est à peine dans le Moyen Nord. Alors, c'est une expression qu'on utilise. On peut catégoriser le Nord en Moyen Nord, Grand Nord et Extrême Nord. Donc, disons que pour le moment, pour faire simple, qu'on est dans le Moyen-Nord.
Najat Biri, bonjour.
Bonjour.
Alors, les Français connaissent bien le nom de la population Inuit, mais on serait bien en peine de situer justement exactement là où ils vivent, au Québec. C'est pourtant sur un immense territoire qu'ils habitent. Hein.
Oui, exactement. Donc, ça prend vraiment le 2/3 du Québec, du nord du Québec. Donc, c'est vraiment un immense territoire. Et donc, il y a 14 villages qui sont sur les côtes de la baie d'Hudson, du détroit d'Hudson et aussi de la baie d'Ungava.
Oui.
Alors, c'est grand, c'est immense, puis c'est beau aussi.
C'est beau. Oui. Et il y a très peu d'habitants. Hein.
Exactement, oui. Mais sont actifs.
Et on verra que les Inuits doivent aussi faire face à de graves problèmes environnementaux. Et parmi eux, Christine Barnard, bonjour d'abord.
Bonjour.
Les impacts du réchauffement climatique qui se font déjà durement sentir pour eux.
Oui, tout à fait. Des changements qu'on voit au niveau des écosystèmes, donc la faune et la flore, et aussi au niveau des géosystèmes, donc tout ce qui concerne la géologie, la glace et le pergélisol, évidemment.
Oui. On se retrouve dans un instant pour en discuter tous ensemble avec donc le public ici à Rimouski. À la une de la science aujourd'hui, les deux toutes petites lunes de Mars qui font parler d'elles. Et c'est un sujet que nous avons enregistré ce matin en raison du décalage horaire dans les studios de Radio-Canada. Jusqu'ici, les spécialistes pensaient que les deux lunes de Mars s'étaient formées par captation de petits astéroïdes, mais une récente simulation faite par des chercheurs américains et japonais pour la NASA vient relancer un vieux débat. Phobos et Deimos, ce sont les noms de ces lunes, sont peut-être le résultat d'une collision entre Mars et un astéroïde géant, comme pour notre lune d'ailleurs. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Sylvain Boulet, planétologue à Géosciences Paris Sud. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et Philippe Hénarejos, rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors justement Philippe, on entend très rarement parler de ces deux petites lunes de Mars. À quoi elles ressemblent d'abord?
Oh ben, elles ressemblent, vu de loin comme ça, elles ressemblent à des astéroïdes. Ce sont des petits corps par rapport à notre lune qui est énorme, qui fait près de 4000 km de diamètre. Phobos, qui est la plus grosse, fait 22 km dans sa... longueur la plus grande. Parce que c'est quelque chose qui est un peu irrégulier, comme une sorte de ballon de rugby. Et Deimos est un peu plus petite. Donc, ce sont deux petits cailloux qui sont en orbite autour de Mars et qui tournent autour de Mars beaucoup plus près que la Lune ne tourne près de la Terre. Quoi.
Et pourquoi on en entend si peu parler, d'ailleurs ?
Alors, on en entend peu parler parce que on se focalise beaucoup sur Mars, qui est juste en dessous de ces deux lunes et qui intéresse beaucoup les planétologues. Mais ceci dit, là, avec ce travail, ça réveille un petit peu un intérêt pour ces deux astéroïdes parce que, indirectement, ou peut-être directement d'ailleurs, ils sont capables de nous renseigner sur l'histoire de la planète Mars elle-même, et ça c'est intéressant. Alors l'idée n'est pas nouvelle, il y a déjà eu des sondes russes qui ont été envoyées dans les années 90, puis dans les années 2000, c'était les sondes Phobos, elles étaient deux, et puis la sonde Phobos-Grunt, hélas, toutes ces trois sondes ont échoué dans leur mission, mais elles avaient pour but, Phobos, de se poser dessus, de gratouiller et éventuellement même de ramener des échantillons pour Phobos-Grunt. Bon, ça n'a pas marché, mais on s'y intéresse quand même un peu.
Sylvain Boulet, les origines par contre de Phobos et Deimos sont inconnues. Il y a plusieurs hypothèses, c'est ça ?
Oui, c'est ça, en fait, depuis déjà pas mal de temps, en fait, hein, parce que depuis même presque 20 ans, aujourd'hui 30 ans même, hein, on hésite entre trois hypothèses principales. La première, c'est de dire, ben voilà, effectivement, Phobos et Deimos ont été capturés par la planète Mars, et donc étaient de simples astéroïdes qui ont été capturés par la planète rouge. La deuxième, effectivement, qui est donc aujourd'hui un petit peu d'actualité, eh bien c'est le fait que Phobos et Deimos seraient issus d'un impact d'un très gros corps avec la planète Mars. Et la troisième, dont on parle un peu moins aujourd'hui, c'est de dire que Phobos et Deimos se sont formés en même temps que la planète rouge et puis se sont accrétés en fait au tout début de l'histoire de la planète rouge. Et voilà. Et donc aujourd'hui, c'est une hypothèse un petit peu abandonnée et donc on hésite un peu plus entre les deux premières.
Alors justement, Philippe, cette publication de la NASA, qu'est-ce qu'elle apporte réellement de nouveau là ?
Alors, à la porte, c'est une simulation informatique, c'est-à-dire que ce n'est pas une observation, mais ça, bon, les chercheurs ont fait tourner des ordinateurs, ils ont fait des simulations d'impact et ils ont vu en gros ce que ça donnait. Et ils sont arrivés à une solution. Ça ne veut pas dire que ça retranscrit ce qu'on voit aujourd'hui, mais ils sont arrivés à une solution qui cadre assez bien à ce qu'on voit aujourd'hui, à savoir qu'il y a deux petits corps comme ça autour de Mars, qui tournent pas très loin, qui tournent sur des orbites quasi circulaire et non pas elliptique, comme c'est le cas quand ces corps-là sont capturés par les planètes. Et ils sont arrivés dans cette solution simulée par informatique à arriver à avoir trois lunes autour de Mars. Alors, vous me direz, il n'en reste plus que deux. Eh bien, dans leur solution, l'une de ces lunes est retombée sur Mars, aurait percuté Mars et les deux autres seraient restées là. Mais il ne faut pas oublier que le sort de ces deux lunes, c'est aussi de percuter Mars d'ici à quelques millions d'années, parce qu'on sait très bien que leurs orbites sont instables et les conduisent à ce destin inéluctable.
Si cet impact géant a bel et bien eu lieu, Sylvain Boulet, on ne devrait pas en trouver des traces sur Mars ?
C'est en fait la grande question. Effectivement, si on a eu cet impact majeur qui a créé Phobos et Deimos, on devrait voir un bassin d'impact de plusieurs milliers de kilomètres, et même presque 10 000 kilomètres. Alors, la dernière publication là parle d'un bassin d'impact qu'on appelle Borealis, qui fait plus de 10 000 kilomètres de diamètre, et qui pourrait être finalement situé dans les plaines de l'hémisphère nord martien. Malheureusement, on ne voit pas vraiment la morphologie du cratère. On voit effectivement que les plaines de l'hémisphère nord sont à plus basse altitude et l'une des hypothèses pour la formation de ces plaines, c'est effectivement l'origine d'un impact. Mais tout ça est encore très débattu par la communauté et on n'est vraiment pas sûr de l'origine de l'impact. Donc il faudrait presque avant tout confirmer la localisation d'un impact dans cet hémisphère nord pour être sûr qu'il y a eu un impact aussi majeur dans l'histoire primitive de Mars.
Donc Sylvain Boulet, il faudrait aller voir sur place en envoyant une sonde par exemple, non ?
Alors, il faudrait aller voir sur Mars s'il y a un bassin d'impact. Le gros problème, c'est que le bassin d'impact a été complètement rempli depuis 4 milliards d'années par de la lave, par des sédiments, etc. Donc, ce serait très très compliqué de finalement prouver ce bassin d'impact. Hein. Bon, on espère toujours. Finalement, il faudrait peut-être mieux aller faire un tour sur Phobos ou Deimos pour essayer de retrouver finalement des choses qui se ressemblent entre la planète Mars et ses satellites pour montrer finalement leur origine martienne.
Et ça, Philippe Nerejo, ça vous semble plausible qu'on envoie une sonde sur ces deux lunes ?
Ah, c'est tout à fait possible. Je vous rappelle que ça a été tenté. Et dans le milieu des années 90, si ça avait marché, on aurait peut-être eu déjà des analyses des morceaux de Phobos et on aurait peut-être conclu que c'était déjà des morceaux de Mars. Donc oui, c'est plausible. C'est une mission qui peut être montée parce que des missions de ce type, ça existe déjà et ça a déjà marché. Par exemple, je pense à la sonde japonaise Hayabusa et Hayabusa 2, qui est d'ailleurs en route vers un astéroïde. La première a ramené quelques grammes d'un astéroïde qui se trouve dans la ceinture d'astéroïdes qui s'approche souvent de la Terre. Et la deuxième sonde va, elle aussi, aller ramener quelques grammes d'un astéroïde. Donc avec une mission de ce type-là, à la limite, on pourrait déjà ramener sur Terre des morceaux de Phobos. C'est quelque chose qu'on sait faire. Peut-être que la NASA y pense, après tout, puisque les Russes ont échoué.
Sylvain Boulet, NASA y pense ?
Oui, tout à fait. Il y a un appel à mission là en ce moment, et donc il y a une mission qui s'appelle PADME qui propose d'aller justement sur Phobos et Deimos. Alors pour l'instant, c'est vraiment dans les tuyaux. Il n'y a rien de confirmé. Ça serait éventuellement une mission qui volerait en 2021. Donc il faut attendre et c'est vraiment pas sûr, mais. C'est vrai que ça serait nécessaire de tout simplement d'aller se promener, d'aller récupérer un caillou de ces satellites, parce que finalement c'est ce qui manque, la réalité terrain, pour pouvoir finalement faire les bonnes mesures chimiques et voir si ces corps ont une origine commune avec la planète Mars. C'est un petit peu ce qu'on a fait finalement avec la Lune lors des missions Apollo, quand on a pu échantillonner enfin les roches lunaires et montrer qu'il y avait des propriétés chimiques qui étaient très proches de celles de la planète Terre.
Merci en tout cas à tous les deux, Sylvain Boulet et Philippe Pénarejos, parce que grâce à vous, on a fait connaissance quand même avec deux lunes de Mars qu'on ignorait quasiment tous. Hein.
Presque. Hein.
Merci beaucoup à tous les deux.
À demain, Mathieu.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Allez, retour avec le public de Rimouski pour le reste de l'actualité scientifique. En bref, comment éloigner les oiseaux affamés quand on est une délicieuse petite chenille ? Eh bien, le mieux est d'essayer de se déguiser en quelque chose que ce prédateur n'aimera pas manger, comme par exemple ses propres excréments. Des chercheurs japonais ont remarqué que chez deux espèces de chenilles communes, eh bien que le camouflage parfait consistait à copier la couleur et la texture des fientes de son prédateur, mais aussi et surtout d'en adopter la posture en demeurant immobile et légèrement entortillé. Après plusieurs séries de tests, ils ont noté que les chenilles imitant exactement la position d'une fiente avaient trois fois moins de chances de se faire manger que celles restant immobiles en position étendue. 1 million de graines de salade vont partir à bord de la Station Spatiale Internationale et elles seront plantées par des écoliers à leur retour sur Terre. Cette opération de science citoyenne nommée Rocket Science est soutenue par l'ESA et elle aura pour but de tester l'impact d'un voyage spatial sur les organismes végétaux. Les graines de roquette partiront en novembre prochain en même temps que l'astronaute britannique Tim Peake et elles séjourneront 170 jours au total. Ces graines seront comparées avec celles restées sur Terre. Et puis enfin, les 10 nouvelles espèces les plus étonnantes de l'année pour fêter la biodiversité et l'année du père de la classification du vivant, Carl von Linné. Le comité international des taxinomistes a relevé hier la liste des 10 spécimens les plus fascinants découverts en 2014. Vous pouvez retrouver les photos du poulet de l'enfer, de l'araignée gymnaste ou du poisson globe géomètre sur la page Facebook de la Tête au Carré. Allez, dans un instant, on s'intéresse au Grand Nord et au réchauffement climatique déjà visible ici. Julia et Angus Stone avec Big Jet Plane.
La tête au carré sur les rives du Saint-Laurent, c'est sur France Inter.
Et nous sommes donc à Rimouski, au Québec, pour le 83e congrès de l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Grand Nord québécois, population inuite, réchauffement climatique. Ce sont donc les sujets qu'on va aborder dans un instant avec nos invités. Louise Dondurand, vous êtes donc la présidente de l'ACFAS, qui est quand même un rendez-vous sans équivalent en France, parce que là, ici à Rimouski, pendant une semaine, 3500 scientifiques vont se succéder pour des conférences tout au long de cette semaine. Ils viennent du monde entier.
Ils viennent du monde entier, bien sûr en grande majorité du Québec, mais nous avons une bonne participation de scientifiques, de chercheurs et d'étudiants-chercheurs qui viennent de France, de Belgique, de Suisse et d'autres pays européens ou même latino-américains.
Ouais. Et c'est un rendez-vous annuel, c'est-à-dire que chaque année, c'est reparti pour une nouvelle édition avec donc ces milliers de personnes qu'il faut faire venir donc des quatre coins du Québec et du monde aussi.
Oui, et à chaque année, c'est toujours la fête. Il faut dire que le congrès de l'ACFAS choisit des thématiques qui sont d'intérêt particulier, souvent pour les régions où elles se tiennent, ce qui évidemment exerce une grande force d'attraction. Il faut dire aussi que 40% des participants sont des étudiants-chercheurs. Donc pour ces étudiants-chercheurs, c'est l'occasion souvent de faire leur première communication scientifique, de faire leur entrée, leur intronisation dans la communauté scientifique, mais c'est aussi pour eux des occasions exceptionnelles d'échange avec des profs, avec d'autres chercheurs et avec d'autres collègues étudiants-chercheurs.
Mais quel est l'esprit de ce congrès, au fond, pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Toutes les sciences sont invitées à l'ACFAS?
Toutes les disciplines sont présentes et les gens qui présentent des communications sont invités à nous faire des propositions de colloques. Ces propositions de colloques sont examinées par des pairs. Donc, c'est un processus quand même d'évaluation qui est très sérieux, qui est très solide. Et à la suite de ça, on monte un programme.
Ouais. Pourquoi avoir choisi de sortir des sentiers battus, là, cette année, à Rimouski? C'est le fleuve Saint-Laurent qui vous a inspiré pour le titre de cette édition?
Je dois dire d'abord que le thème du colloque, du congrès, pardon, est proposé par l'Université Haute. Et c'est la troisième fois que l'Université du Québec à Rimouski accueille le congrès de l'ACFAS. Et c'est intéressant de constater que les thèmes reflète de plus en plus l'ouverture de la science. Et sortir des sentiers battus, en fait, ça correspond très très bien à un des objectifs de l'ACFAS, qui est de promouvoir le dialogue science et société. Donc, ça veut entre autres dire qu'on sort des sentiers battus, on sort de l'université, on parle à d'autres mondes, on parle aux médias de plus en plus, on parle aux décideurs. Et c'est de plus en plus vers ces types d'interventions que sont axées les activités de l'ACFAS. Et le congrès de l'ACFAS, qui est l'activité phare de l'organisation, en est l'occasion parfaite. Ouais.
Et on fait ça quasiment les pieds dans l'eau, parce qu'il faut dire aux auditeurs que nous sommes là vraiment au bord du fleuve Saint-Laurent.
Absolument, absolument, on le voit d'ici.
Dans des conditions exceptionnelles, en tout cas, avec un bon climat météo aussi, hein, pour les premiers jours en tout cas. On va voir si ça se poursuit pendant cette semaine. Et puis des sujets donc, dans l'actualité scientifique qui sont assez universels, l'exploitation par exemple des hydrocarbures. hydrocarbures, oui. Vous en parlez beaucoup, les aliments pour la santé et le réchauffement climatique qui va faire l'objet d'une discussion. En tout cas, Louise Dandurand, merci d'inviter, comme chaque année, les petits Frenchies de la tête au carré, parce qu'on est très heureux de passer 3 jours avec vous pendant ce congrès de l'ACFAS.
Hein. Et c'est moi qui vous remercie d'être venu.
On aura l'occasion de se recroiser pendant les jours prochains. Absolument. Le Nord québécois, Martin Simard, entre autres, pour en parler. 3 invités, en tout cas, cet après-midi. Martin Simard, vous êtes professeur de géographie et d'aménagement du territoire à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et vous êtes président du regroupement des géographes du Québec. À vos côtés, Najat Biri, vous êtes directrice du Centre d'études nordiques et professeur-chercheur en géographie physique. Et puis enfin, Christine Barnard, vous êtes coordinatrice de ce même Centre d'études nordiques. On va évoquer avec vous en particulier la question du réchauffement climatique. Martin Simard, justement, malgré les relations très étroites, amicales entre la France et le Québec, c'est toujours très compliqué pour un Français de se représenter véritablement la carte géographique du Québec. C'est-à-dire qu'on en a une idée très réduite au fond. Hein. On pense à Montréal, on pense à Québec, et au-delà, on connaît absolument rien de ce territoire québécois.
Oui, ben, disons que c'est pas seulement les Français, même les Québécois connaissent relativement enfin peut-être pas l'ensemble de leur géographie, mais une bonne partie qui est la géographie du Nord québécois. Oui. Alors le Nord québécois, c'est un territoire énorme hein, qui est presque 1 million de kilomètres carrés, et puis qui commence habituellement lorsque l'écoumène, la zone habitée se termine, on frappe si on peut la forêt boréale et puis progressivement on entre dans la taïga et puis la toundra. Donc ce sont des espaces qui sont très peu habités et qui sont très différents, non seulement par le climat mais aussi au plan juridique, au plan linguistique et culturel, parce que c'est là où les populations autochtones et inuites sont majoritaires. Donc c'est un milieu qui est encore peu connu, qui est intéressant à visiter puis à questionner.
Ouais. Alors, le Grand Nord québécois, c'est un territoire qui est parfaitement délimité aujourd'hui?
Ben, disons qu'on doit, par convention, là, fixer des frontières, c'est-à-dire que le gouvernement du Québec a établi ce qu'on appelle la région administrative du Nord du Québec, qui a des frontières bien délimitées. Mais évidemment, le Nord, les êtres humains aiment les frontières, aiment les limites, mais la nature est beaucoup plus sophistiqué, c'est-à-dire que le climat et également la végétation, tous ces points de repère se transforment progressivement à mesure qu'on va vers le nord. Donc, c'est un peu difficile de savoir à quel endroit mettre la limite du nord, mais disons que par convention, on le fixe habituellement autour du 49e, 50e parallèle.
Voilà, donc ça nous donne, hein, si on regarde une carte, en tout cas une bonne indication pour évoquer ce grand territoire très peu peuplé, justement. On en parlait avec vous tout à l'heure, Najat Biri. Immense territoire, très peu d'habitants. Hein.
Oui, il y a peu d'habitants, mais très actifs, très importants. Donc, en termes tant que vraiment d'écosystèmes que de points de vue ressources naturelles. Quand je parle de ressources naturelles, il y a la forêt, il y a les mines, il y a les caribous. Puis là, c'est un territoire qui est habité quand même depuis 7-8 000 ans. Et actuellement, donc dans le Grand Nord, c'est sûr, il y a les Inuits. Mais il y a juste au sud les Cris, donc les Indiens, les Cris. Il y a aussi les Naskapi plus au sud, et les Innus sont des nations autochtones et qui ont un apport culturel majeur, mais aussi qui sont très, très adaptés à leur environnement. Donc, on a beaucoup, beaucoup à apprendre d'eux. Puis c'est pour ça, au Centre d'études nordiques, on travaille beaucoup en collaboration avec les communautés.
Christine Barnard.
La mission du Centre d'études nordiques est justement de contribuer au développement durable du Nord par l'acquisition de connaissances sur la recherche terrestre qui se fait, sur les écosystèmes et les géosystèmes, mais en étroite collaboration avec les communautés du Nord pour intégrer le plus possible les connaissances traditionnelles à la recherche scientifique.
C'est ça, donc des peuples vraiment avec une culture ancestrale, hein, on le comprend, et qui font face aujourd'hui évidemment à des enjeux très modernes comme l'exploitation des ressources, hein, on aura l'occasion d'en parler avec vous, mais également la question du réchauffement climatique. Martin Simard, climatiquement justement, qu'est-ce qui définit un petit peu le Grand Nord?
Ben, disons que c'est évidemment le froid. Il fait beaucoup plus froid que dans le Québec méridional. Et puis, disons qu'il y a quand même des étés, mais ils sont très courts. Et le sol est gelé quand on est dans le Grand Nord, donc dans le territoire des Inuits, dans ce qu'on appelle le Nunavik. On est vraiment dans un endroit qui est affecté par le pergélisol. Donc, une partie du sol sur quelques mètres peut être gelée de manière quasi permanente.
Qu'est-ce qu'on appelle exactement le pergélisol, alors? C'est cette couche qui reste gelée tout au long de l'année.
Exactement, exactement. C'est ce qu'on appelle en anglais permafrost, mais disons qu'au Québec, on parle de pergélisol.
Oui. Christine Barnard, justement, la question du réchauffement climatique est déjà saillante ici dans ce Grand Nord. Et on voit, par le biais du pergélisol précisément, les effets du changement climatique qui sont
justement
en cours.
Donc le pergélisol est un sol qui est gelé ou à température de 0 ou 2 degrés pendant plus de 2 ans. Donc oui. un sol qui est gelé en permanence. Depuis des centaines d'années. Par contre, avec les dernières années, on voit une fonte de ce pergélisol. Alors, imaginez des villages qui ont été construits sur cette assise-là, dans le nord. Alors, un sol gelé qui fond. Ça a un impact majeur sur les infrastructures, tant pour les bâtiments que les routes et les pistes d'atterrissage. Vous comprendrez que les villages dans le nord sont accessibles seulement par avion. Alors, des problèmes majeurs pour les pistes d'atterrissage, pour apporter les denrées. Aussi pour les communautés qui sont en effervescence, des communautés qui ont des populations très jeunes, des populations grandissantes, donc qui se posent la question comment aménager du côté urbain leur village avec l'instabilité du pergélisol.
Oui.
Puis il y a aussi des impacts majeurs au niveau des écosystèmes qui s'adaptent à le pergélisol qui fond, donc qui impacte la faune et la flore aussi avec l'apparition de mares, de thermocastes, alors des petits lacs qui se forment
quand le
pergélisol fond. Donc des transformations majeure au niveau des écosystèmes.
Ouais. Justement, vous parliez, Najat Biri, tout à l'heure de la disparition des caribous, c'est vrai?
C'est le déclin quand même très important du caribou. Donc, il y a 2 troupeaux de caribous au nord du Québec. Et le troupeau de la rivière, c'est vraiment un déclin drastique. Là. Donc, il y a 15-20 ans, donc, il y avait plusieurs milliers, donc ça peut aller jusqu'à 600, 700 000. Maintenant, ça a descendu jusqu'à 10 000, 15 000.
Oui.
Donc, ce déclin est majeur. Puis, de nos membres au Centre d'études nordiques, on a une équipe vraiment forte qui travaille sur les variations des effectifs des caribous parce que c'est une ressource majeure pour les Inuits. Donc, en termes vraiment de quand même nourriture, savoir traditionnel, mais aussi pour l'économie du Nord aussi. Donc, c'est majeur.
Animal emblématique, évidemment, du Québec, qui résonne particulièrement aussi pour nous, les Français. On va écouter un reportage de Radio-Canada qui a été réalisé justement en décembre dernier, autour précisément de cette question du déclin de la population de caribous, autour d'un troupeau précisément de la rivière George, dont vous parliez tout à l'heure. Alors, non seulement, effectivement, cet animal occupe une place importante dans l'alimentation et la culture autochtone, mais son déclin vient aussi bouleverser toute l'industrie de la chasse sportive.
C'est dans des camps de chasse comme ceux-ci que des chasseurs de caribous réalisaient leurs rêves. Mais depuis la fin de la chasse sportive, il y a 3 ans, ils ont été laissés à l'abandon.
Maintenant, on voit tout ça à l'abandon, plus de caribous non plus. Tout à l'abandon, tout tombe en ruine. Ça fait pitié.
Jean Paquet pouvait accueillir jusqu'à 400 chasseurs dans ses camps chaque année. Maintenant, sans l'attrait de la chasse, il vend seulement 25 forfaits de pêche sur la rivière George chaque été. Donc, il n'entretient que 5 de ses 20 camps. Son fils et lui en survolent des centaines du genre chaque été.
C'est désolant de voir ça, là, parce que c'est des pures pertes. Et puis, c'est un petit peu comme des taches dans un environnement qui est merveilleux, qui est la toundra. Puis que ce soit laissé aller comme ça, je pense que c'est un phénomène qui est un petit peu inacceptable.
Jean Paquet estime qu'il y a environ 600 camps de chasse au nord de Schefferville. La plupart désaffectés. Selon des biologistes de l'Université Laval, le troupeau de la rivière George est toujours en déclin. Et la raison exacte de la mort de tant de caribous n'est pas connue. Ici Marika Wheeler, Radio-Canada, au nord de Schefferville.
Voilà, Najat Biri, donc on voit cette question du caribou qui est une question très sérieuse ici. Hein? Vous vous en occupez pour essayer justement d'enrayer ce déclin des populations?
On essaie, mais pour enrayer vraiment ce problème, c'est d'abord et avant tout savoir quelles sont les causes. Donc, on ne sait pas exactement c'est quoi, mais on a quand même des pistes de réflexion, des études, beaucoup d'études qui ont été faites au Centre d'études nordiques. Alors, donc, ça peut être probablement la chasse. Il y a aussi question du changement climatique, le réchauffement climatique. On a la végétation qui change, ce qu'on appelle, il y a un phénomène, c'est l'arbustification du nord. Donc, au lieu d'avoir de la toundra, avoir beaucoup de lichen pour... Donc, en réalité, c'est la nourriture du caribou.
Mm-hmm.
Alors, il y a beaucoup plus d'arbustes, alors, beaucoup de boulot. Donc, le caribou ne peut pas avoir vraiment assez de nourriture. Donc, il y a question aussi la variation dans la quantité de la neige qui change. Il y a aussi les écosystèmes qui changent. Il y a beaucoup plus de lacs. Donc, il y a vraiment une combinaison de facteurs. Donc, et aussi avec le climat, ce qui se réchauffe rapidement. Parce qu'il faut dire quand même... depuis des milliers d'années, il y avait toujours des réchauffements et des refroidissements climatiques. Mais là, maintenant, ça se fait d'une façon vraiment trop rapide pour que l'animal ou l'humain puisse vraiment
et là,
s'adapter.
Ouais. Et ce Grand Nord, justement, Martin Simard, c'est une sorte de laboratoire vraiment à ciel ouvert là, pour la question du réchauffement climatique. Hein.
Oui, tout à fait. Mais disons que on voit déjà certaines tendances poindre, mais c'est plutôt, comment dire, d'ici une génération ou deux là, qu'on verra là, les effets majeurs. Mais effectivement, les transformations sont rapides.
Allez, on se retrouve dans un instant. Suite de notre conversation ici à Rimouski, à l'occasion donc de ce 83e congrès de l'ACFAS.
This day will be our last, stranger.
IBI avec Stranger Lover sur France Inter. Tête au carré québécoise, donc à Rimouski pour évoquer aujourd'hui dans le cadre de cette première émission donc la question du Grand Nord québécois, la population inuite et puis le réchauffement climatique avec Martin Simard, Najat Biri et Christine Barnard. Martin Simard, justement, ces communautés autochtones inuites, parlez-nous un petit peu des conditions de vie précisément de ces personnes au niveau social, sanitaire. Il y a beaucoup de chômage, on le dit souvent, sur des populations qui fonctionnent encore beaucoup de façon traditionnelle.
Oui, ben disons qu'il faut mettre en contexte tout ça, c'est que les gens du Nord, c'était autant les Inuits que les Cris ou les Innus, c'était des gens qui étaient nomades et qui se sont sédentarisés progressivement il y a un peu plus d'un demi-siècle.
Oui.
Donc, c'est quand même tout un bouleversement dans leur mode de vie. Hein. Souvent, dans une même famille, entre le grand-père et le petit-fils, il y a tout un univers complètement différent en termes d'accès aux technologies. Bon, le grand-père est passé de l'igloo à la maison, et puis a vu sortir Internet, etc.
Pourquoi la sédentarisation, d'ailleurs, précisément? Comment on l'analyse?
Ben, disons que c'est une question assez complexe, mais on pourrait dire que c'est une sédentarisation qui s'est faite de manière plus ou moins forcée. Les premiers points d'ancrage pour les Inuits et les Autochtones, c'était souvent les postes de traite de la baie d'Hudson, donc où on achetait les fourrures. C'était aussi les églises ou la chapelle, donc c'est autant le commerce que la religion qui a, d'une certaine manière, poussé les gens à se sédentariser. Mais il y a aussi, finalement, les gouvernements qui voyaient un avantage d'avoir des populations stables dans un grand nord qu'on voulait peupler pour des raisons essentiellement géopolitiques.
Quelle est la place, finalement, de ces populations aujourd'hui au sein, précisément, de la population québécoise? Hein?
Ben, on doit dire que... disons qu'ils sont majoritaires dans le Nord, mais en termes de pourcentage là, de la population, c'est un pourcentage assez faible. Donc, ils sont un peu méconnus, si on peut dire, du reste du Québec. Et ce sont des gens qui vivent dans des conditions, il faut l'avouer, assez difficiles. Si on regarde l'ensemble des indicateurs sociosanitaires, mortalité infantile, violence conjugale... Bon, j'en passe. Ouais. Tous ces indicateurs-là affichent des niveaux de scolarité ou décrochage scolaire. Tous ces indicateurs sont semblables à ce qu'on pourrait voir dans certains pays en voie de développement.
Ouais. C'est ça, on dresse toujours un tableau très noir de la population inuite quand on l'évoque, mais c'est réellement ce qui se passe au sein de ces communautés?
Oui, tout à fait. Il y a certaines différences, et puis avec le temps, il y a certaines améliorations également. Il y a des emplois dans les services, mais quand même, on peut être conscient qu'il n'y a pas vraiment, pour la plupart de ces villages-là, il n'y a pas d'entreprise majeure là, qui fait vivre le village. Alors souvent, c'est comme des villages sans véritable base économique. Donc les gens sont là, c'est leur territoire ancestral, ils se sont sédentarisés, ils y sont attachés, mais il n'y a pas, à proprement parler, de base ou de raison économique pour maintenir le village en place. On regarde ça d'une manière un peu simpliste.
Oui, Najat Biri.
Oui, je voudrais ajouter, c'est sûr qu'il y a un clivage entre la population qui est en réalité nomade, quand je parle les grands-parents, puis les parents, puis les jeunes. Donc, le fait qu'ils s'étaient en réalité sédentarisés, puis aussi, donc, il y a quand même l'occidentalisation du Nord. Donc, il y a un certain clivage. Quand même, les conditions sont quand même difficiles, mais s'améliorent au fur et à mesure. Donc, oui. On travaille beaucoup avec les communautés nordiques, mais aussi avec les Cris. Mais ils ont quand même en main certaines entreprises qu'ils gèrent eux-mêmes. Donc, quand je parle Air Inuit, là, c'est en réalité, c'est les Inuits qui gèrent. Donc, ils savent c'est quoi les problèmes, puis ils essaient, donc, puis en relation, donc en collaboration avec le gouvernement du Québec, puis aussi avec d'autres partenaires, d'améliorer la situation, tant en termes d'éducation qu'en le bien-être aussi.
Oui, ouais. Justement, Martin Simard, il y a des enjeux très forts, évidemment, pour ces territoires. D'abord, maintenir des infrastructures pour essayer d'améliorer les conditions de vie, mais tout ça dans, précisément, des conditions très difficiles liées au territoire en lui-même.
Oui, tout à fait. Il faut être conscient que c'est un très vaste territoire et que les villages et les communautés autochtones sont très éloignées les unes des autres, souvent. Beaucoup de villages ne sont pas reliés par la route, ne sont rejoignables que par l'avion à longueur d'année et par bateau durant l'été. Donc, il y a un problème d'accessibilité qui est majeur, qui a un impact sur le coût des denrées alimentaires, qui sont la plupart du temps importées du Québec méridional. Oui. Donc, tout ça crée un contexte où, comment dire, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de difficultés.
C'est ça.
Si ouais. quelqu'un qui veut partir en entreprise dans le Nord doit faire face à ces coûts auxquels les gens du Sud n'ont pas à faire face.
Ouais, donc il y a une équation compliquée, hein, on le comprend bien, dans ce grand Nord québécois. D'abord avec ses populations, on le disait, à la culture ancestrale, hein, une nature qui est à préserver, et puis aussi évidemment l'exploitation des ressources qui sont présentes, parce qu'il y a un gigantesque bassin de ressources qui est là à exploiter.
Oui, ben disons que le Nord, évidemment, il n'y a pas d'agriculture dans le Nord, il fait trop froid. Mm-hmm. La principale ressource, mis à part la chasse, la pêche, le tourisme, c'est l'activité minière. Hein. Et l'activité minière, ça crée des emplois, mais c'est une activité qui est quand même assez lourde. Hein. On arrive avec des méga-projets qui souvent demandent des centaines de millions, voire des milliards d'investissements. Et évidemment, on transforme le territoire et tout ça peut avoir des impacts sur les communautés environnantes. Disons qu'il n'y a pas de projet minier aux abords de chacune des collectivités, mais que certaines, par exemple dans le cas de Schefferville, ou Fermont, ou Chibougamau, ce sont des villes où on doit, on côtoie les activités minières et puis on profite d'une part des emplois, mais d'un autre côté, on subit certains effets environnementaux. Ouais.
Alors justement, il y a le grand plan Nord maintenant, hein, ce qui est un objectif gigantesque sur 25 ans précisément, un projet de développement. Quand on parle des mines, c'est pas très populaire ici au Québec, hein, visiblement.
Ben, c'est-à-dire que je pense que les gens sont sensibilisés aux impacts que ça peut avoir, mais le gouvernement, lui, pour sa part, à travers le plan Nord, il a voulu encourager ce type de développement qui est... donc, il y a une tendance depuis une dizaine d'années, le prix de certaines matières premières a augmenté, donc le grand capital international a voulu investir et puis développer certaines activités minières. Jusqu'à date, il y a beaucoup plus de paroles que de gestes. Hein. Il n'y a quand même pas une quantité énorme de mines qui ont vu le jour, d'autant plus que depuis les dernières années, les cycles économiques sont très, très rapides. Le minerai de fer, par exemple, a déjà perdu beaucoup de valeur. Donc, oui, ça peut être une voie, mais le problème avec l'industrie minière, c'est que ça crée des impacts, ça demande des investissements énormes. Ces investissements sont contrôlés de l'étranger. Et souvent, en l'espace d'une décennie ou deux, la ressource est épuisée ou le cycle économique fait que l'activité n'est plus rentable.
Est-ce que tout ça bénéficie aux populations inuites, justement, ou finalement, ce sont d'autres populations qui viennent sur place exploiter les ressources et qui s'en vont ensuite, qui en bénéficient directement?
Oui, il y a beaucoup de travailleurs qui viennent du Sud. C'est le fameux phénomène, comme on dit en anglais, du fly-in, fly-out, donc des travailleurs qui... font la navette en avion, la compagnie affrète un avion, amène ses travailleurs dans le Nord pour 10-15 jours et puis les ramène comme ça dans un cycle qui se répète. Oui. Alors, il y a quand même des ententes. On essaie d'intégrer soit des Inuits dans le coin de Schefferville, soit à Raglan des Inuits. On essaie d'intégrer le plus possible de travailleurs Inuits ou autochtones dans les usines, mais c'est encore pour la majorité des cas, des gens qui viennent du Sud, une main-d'œuvre, si on peut dire, passagère.
Martin Simard, merci beaucoup. On va vous laisser filer parce que vous avez du travail vous aussi dans ce congrès de l'ACFAS.
Tout à fait, oui.
Hein, vous partez présider, je crois, un rendez-vous, pas loin d'ici, mais il faut quand même que vous partiez.
Oui, ça m'a fait plaisir. Donc, bon séjour à toute l'équipe.
Merci à vous, Martin Simard, d'être passé dans notre tête au carré. Najat Biri et Christine Barnard, on se retrouve dans un instant. On poursuit notre discussion précisément autour des relations entre ces populations inuites et leur environnement très particulier ici dans le Grand Nord québécois.
savent merci.
Poignard, Alain Chamfort sur France Inter.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Et la tête au carré donc au bord du Saint-Laurent, ici à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, pour le congrès de l'ACFAS. Dernière partie de notre discussion avec mes invités Najat Biri et Christine Barnard pour mieux découvrir cette population inuite qu'on connaît bien de nom en France, mais dont on ignore beaucoup de choses en tout cas. Et puis sur la question de leur relation avec l'environnement, le réchauffement climatique. Christine Barnard, on parlait de l'exploitation des ressources aussi avec Martin Simard tout à l'heure. Est-ce que la nature dans cette région du Grand Nord reste assez bien préservé quand même des grosses industries, ou est-ce que la pollution gagne aussi du terrain dans cette région du Québec?
Oh, je dirais plus au sud du nord, si on veut, aux alentours du 49e parallèle, il semble avoir plus d'impact, plus de développement, alors parce que c'est accessible par la route jusqu'à Radisson et dans les environs. Mm-hmm. Mais quand on monte au-delà de ça, où la route se termine près de Radisson, il y a seulement quelques exploitations minières, mais c'est sûr que les impacts environnementaux se font ressentir. Alors, il y a justement cet aspect-là qui est de plus prise en compte avec le plan Nord, c'est le respect des façons d'exploiter justement les ressources naturelles.
Najat Biri?
Juste pour continuer, dans le Grand Nord, vraiment dans la toundra où il y a le pergélisol continu, oui, dont l'épaisseur peut quand même excéder 150 mètres donc d'épaisseur, c'est lié à la mine Raglan. Alors la mine Raglan, ça fait quand même plusieurs années qu'il est en place. Il y a quand même beaucoup d'ententes qui ont été mises en place entre les communautés et la mine. C'est sûr qu'il y a des contaminations dans la responsable de cette mine et les scientifiques. Donc, ils travaillent en collaboration pour minimiser cet impact de pollution. C'est loin des communautés, mais quand même, en termes sociétal, donc là, quand même, il y a un impact sur les communautés. Puis aussi, donc, il y a des ententes, des travaux qui se font en collaboration entre les communautés, les chercheurs, mm-hmm, et aussi, donc, la responsable de la mine pour essayer d'utiliser ou exploiter donc la mine, mais dans le respect tant de l'environnement et de la communauté. C'est un défi.
Parce qu'on voit quand même que la santé des populations est directement impactée, hein, quand même.
Oui, tout à fait. Donc là, c'est pour ça qu'il y a des chercheurs. Donc, par exemple, je parle à l'Université Laval, donc il y a tout un groupe de chercheurs de NACIVIC qui travaillent vraiment avec les communautés du Nord pour essayer de contrer le problème de santé qui sont liés à la contamination, donc qui sont liés à la mine.
Alors apparemment les choses s'améliorent un petit peu, mais c'est vrai qu'entre 92 et 2004, je crois, le taux de concentration de mercure, de plomb, par exemple, dans le sang des populations était extrêmement élevé. Et les choses tendent un peu à s'améliorer quand même aujourd'hui. Il y a des efforts qui ont été faits.
Oui, il y a des efforts. Donc, il y a des suivis qui sont faits donc, en collaboration avec les organisations nordiques comme MACIVIC, CATIVIC et donc, les communautés et aussi donc, les scientifiques. Donc, on essaie de faire quand même un suivi. C'est sûr qu'il faut continuer ce suivi, puis il faut vraiment essayer de trouver vraiment des solutions, comme on dit, durables pour ce problème.
Il y a un chiffre quand même qui est important, c'est l'espérance de vie. Je crois qu'elle est de 10 ans inférieure au reste de la population canadienne, quand même, ici, chez les Inuits.
Oui, tout à fait. Les conditions ne sont pas faciles. Hein. Ouais. Donc, même depuis, sont arrivés dans le Grand Nord, là, depuis des milliers d'années, mais avec donc, l'arrivée de l'industrialisation, puis avec l'impact humain, c'est sûr que c'est de plus en plus difficile. Hein.
Christine Barnard, ces régions justement du Grand Nord, elles sont évidemment extrêmement intéressantes pour le reste du monde aussi à observer par rapport aussi à cette question du réchauffement climatique. C'est une année très très importante avec la COP21 à Paris à la fin de l'année. Mais regarder, observer des régions comme les vôtres ici, c'est déjà avoir des indicateurs. Et puis peut-être aussi une façon d'anticiper la façon dont cette question du réchauffement climatique va se développer ailleurs dans le monde.
Oh oui, tout à fait. Et les recherches au Québec sont très avant-gardistes et on participe aussi dans plusieurs grands projets internationaux pour voir justement comment ils travaillent dans les régions éloignées dans le Nord. Alors, on parle de la Sibérie, de la Scandinavie, qui ont, et en Alaska aussi, aux États-Unis, des grands projets pour étudier de près les changements climatiques qui ont lieu dans tout le Nord circumpolaire.
Ouais. Alors sur la végétation aussi, là vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, il y a des gros changements qui sont en cours.
Oui, on appelle ça « the greening of the north » ou le verdissement.
C'est
donc
ça.
Des espèces arbustives qui prennent de plus en plus d'expansion. On ne parle pas encore d'une ligne d'arbres qui est en migration, mais c'est surtout les espèces arbustives qui ont pris beaucoup d'expansion. Mm-hmm. Donc ils peuvent avoir des impacts justement sur, par exemple, les petits fruits que récoltent les communautés, que tout d'un coup, il y a de l'ombrage de ces arbustes qui prennent de plus en plus de place. Alors, quel est l'impact sur la productivité des petits fruits dont les communautés profitent beaucoup pour leur alimentation? Donc, beaucoup de questions à ce niveau-là. On a beaucoup de chercheurs justement en écologie des plantes qui étudient la distribution des plantes, le changement dans leur
distribution. C'est ça. Donc là, on peut aussi redessiner quasiment les cartes géographiques de cette région à la lumière du réchauffement climatique.
Oh, oui, au niveau du pergélisol, au niveau de la glace, au niveau de la distribution des plantes, mais aussi au niveau de la distribution de la faune.
Oui.
Donc, on voit beaucoup de migration des espèces du sud au niveau des mammifères qui migrent vers le nord. Mais on a même vu des espèces du nord qui migrent vers le sud, comme le bœuf musqué. Donc, comment ces espèces vont interagir ensemble?
Ouais. Et Najat Berri, la question des eaux souterraines aussi est cruciale, toujours en lien avec le réchauffement climatique.
Oui, on a une équipe au Centre d'études nordiques donc, qui travaille vraiment sur cette thématique.
Mm-hmm.
Donc, le changement climatique, le réchauffement climatique qui est vraiment très, très rapide, il a des impacts négatifs, ça c'est sûr. Mais là, on veut peut-être, là, ils sont en train de voir, est-ce qu'il y a un impact positif de ce réchauffement climatique qui est en relation avec l'eau potable vraiment souterraine? Parce qu'avec le pergélisol, est-ce qu'il y a une façon vraiment que les taliques, c'est-à-dire donc de l'eau qui est emprisonnée dans le sol, dont le réservoir peut vraiment s'agrandir. Est-ce qu'il y a une possibilité d'aller utiliser cette eau potable souterraine? Donc, il y a une équipe qui travaille avec le ministère de développement durable et de la lutte contre le changement climatique sur cette thématique dans le Nord. Donc, pour voir cette possibilité aussi comme point positif dans le réchauffement climatique.
Vous avez le sentiment que le reste du monde aussi observe avec intérêt ce qui se passe au niveau des recherches qui sont menées ici dans le Grand Nord?
Oui, on travaille vraiment en collaboration avec des Français. Donc, on a des collègues qui sont des membres du Centre d'études nordiques avec des Scandinaves. Donc, au centre, on a des stations de recherche qui sont de Radisson, donc jusqu'à pratiquement le pôle Nord, donc sur 4000 kilomètres, donc ce qui nous permet vraiment de faire ces observations.
Merci à toutes les deux. Là aussi, je sais que vous êtes très occupés pour le congrès de l'ACFAS, donc je vous laisse filer, Najat Berri et Christine Barnard, pour retrouver vos équipes. Vous allez faire, vous aussi, des présentations à l'occasion du congrès. Merci infiniment d'être venu nous éclairer sur ce Grand Nord québécois qu'on connaît peu, évidemment, en France, et qui est au centre de vos recherches. Et bon congrès à toutes les deux. Merci infiniment.
Merci, au revoir. Puis merci d'avoir...
C'est terminé pour cette première Tête au carré ici à Rimouski, puisque nous passons 3 jours avec nos amis de l'ACFAS. Très bon congrès donc à tous. Merci au public qui était présent ici cet après-midi. On se retrouve donc demain, même endroit. Je vous signale que l'ACFAS possède un site internet, une page Facebook, un compte Twitter si vous souhaitez, depuis la France, découvrir les sujets scientifiques qui sont discutés ici jusqu'à la fin de la semaine. Dans un instant sur France Inter, Affaires Sensibles avec Fabrice Drouel.